Du lundi au vendredi, de 9h à 10h, on en parle sur RTS La Première.
C'est la semaine des bonnes résolutions numériques, hein, on en parle. Aujourd'hui, surfer sur Internet. Quoi de plus naturel comme activité, que ce soit avec son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Mais ces pérégrinations au gré de recherche cachent des pièges qu'il vaut mieux prévenir. Steven Meyer, expert en sécurité numérique, en a détaillé plusieurs points au micro de François Janet.
Une grosse partie de notre activité sur nos ordinateurs ou nos smartphones, c'est de l'activité où on veut être connecté. Et là-dessus, évidemment, il y a des choses à faire attention. Quand on est connecté, bah, essentiellement, notre appareil est connecté à d'autres appareils, à d'autres réseaux. Et ça, ça peut être quelque chose de dangereux, que ce soit pour des attaques qui nous ciblent ou que ce soit par rapport à du vol ou de la prise d'informations nous concernant. Donc, de façon générale, d'abord, commençons par le navigateur web. Quel que soit le navigateur web que vous utilisez, il faut le mettre à jour. Parce que ce navigateur web va aller se connecter à des sites, et si ces sites sont malveillants et votre navigateur n'est pas à jour, bah, il peut attaquer votre navigateur et rentrer dans votre appareil.
Mais aujourd'hui, quels sont les principaux risques auxquels on s'expose? Je veux dire, les gens mal intentionnés, ils cherchent quoi?
En fait, ils cherchent à rentrer sur votre compte. Votre compte email, c'est le Saint Graal, parce qu'une fois quelqu'un est dans votre compte email, bah, il peut avoir accès à tous vos emails et donc à tous vos autres comptes qui sont liés, sur lesquels vous connectez depuis votre email.
Et là, ils vous volent votre identité.
Ils vous volent votre identité, ils se connectent à tous vos autres comptes, ils vont essayer d'attaquer vos amis, ils vont essayer de vous sortir de l'argent, ils vont essayer de sortir des informations personnelles, ils vont essayer de vous escroquer des informations qu'ils auront prises. Là-dessus, il y a énormément de choses malveillantes qui peuvent être faites. Donc, de nouveau, correctement protéger ses comptes. Et là-dessus, pour protéger ses comptes, la seule façon que vous vous identifiez à votre compte, c'est avec un nom d'utilisateur et mot de passe. Il faut bien choisir son mot de passe. Si vous pouvez avoir un gestionnaire de mot de passe, c'est super. Ces gestionnaires de mot de passe vont générer des mots de passe pour vous, vont s'en rappeler pour vous et vont vous les donner au moment où vous en avez besoin.
Qu'est-ce qui est important dans le mot de passe? La longueur, la complexité?
Peu importe la complexité, si un mot de passe est suffisamment long, ça le rend suffisamment compliqué pour que personne puisse le deviner. Mais il faut surtout qu'il soit relativement unique, parce que les mots de passe que vous utilisez sur une plateforme, bah cette plateforme peut se faire hacker, perdre le mot de passe, et les hackers, la première chose qu'ils vont faire, c'est utiliser votre nom d'utilisateur qu'ils ont récupéré et le mot de passe qu'ils ont récupéré et l'essayer sur toutes les autres plateformes. Et ça, on le voit systématiquement arriver en cas d'attaque. Donc, utiliser des mots de passe différents sur différentes plateformes, c'est très important. Et là aussi, c'est pour ça que c'est important d'avoir un gestionnaire de mots de passe, parce que c'est physiquement impossible de se rappeler de centaines de différents mots de passe qui sont tous longs.
Avec un gestionnaire de mots de passe, il suffit de se rappeler du seul mot de passe du gestionnaire.
Exactement. Et ensuite, c'est le gestionnaire de mots de passe qui vous donne le mot de passe à chaque fois que vous connectez sur un site spécifique, le mot de passe dont vous avez besoin.
Mots de passe ou mise à jour sont importants, mais aujourd'hui, il ne faut pas hésiter non plus à opter pour les connexions à multifacteurs pour gagner encore en sécurité. Steven Meyer.
Ce multifacteur, c'est justement cet outil qui vous aide à dire, en plus du mot de passe, on va demander quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, essentiellement, c'est quelque chose que vous avez. J'ai mon smartphone et depuis mon smartphone, je valide que c'est réellement moi. Ce smartphone peut vous donner un code qui change toutes les 30 secondes, peut vous envoyer une notification sur laquelle vous devez cliquer OK, ainsi de suite. Et toutes ces choses-là font que quelqu'un qui aurait volé votre mot de passe, malgré ça, n'arrive pas à rentrer dans votre compte. Il y a plusieurs degrés de qualité de multifacteur. Le moins bon, c'est le SMS. Les SMS se font facilement intercepter, se font facilement voler. Et on a beaucoup de gens dans la crypto qui se sont fait voler beaucoup d'argent par le vol de SMS. Ensuite, il y a ces codes qui changent toutes les 30 secondes. Ceux-là sont plus sécurisés. Mais le problème, c'est que vous n'avez aucune idée sur quel site vous les entrez. Donc, si vous allez sur un faux site internet, puis vous entrez votre mot de passe et ce code qui change toutes les 30 secondes, quelqu'un de malveillant, il peut les réutiliser dans les 30 secondes qui suivent, ce qui généralement est suffisamment de temps pour eux. Après, il y a ceux qu'on reçoit par push notification. Donc, si vous recevez une notification sur votre appareil, puis vous validez, là, ça augmente la qualité de la sécurité parce que ça vous donne un contexte en vous disant c'est une connexion vers cette plateforme-là depuis tel endroit.
Le e-banking utilise quel type de dialogue?
Alors, les e-banking, eux, ils utilisent souvent des QR codes qu'il faut scanner. Et sans citer des banques, il y en a qui utilisent des QR codes mieux que d'autres. Il y en a qui font plus de contrôle de sécurité avant de donner le QR code. Et ça peut faire des grandes différences. Et le plus sécurisé de tous, c'est ceux vers lesquels l'industrie sont en train d'aller. C'est un nouveau standard qui s'appelle FIDO 2. Et essentiellement, il vous demande de mettre une sorte de clé USB dans votre appareil qui vont ensuite certifier physiquement que vous avez cet appareil-là et qui va faire des échanges cryptographiques un peu compliqués entre votre appareil et le site web sur lequel vous connectez pour être sûr que c'est bien vous et que c'est bien le site web sur lequel vous voulez vous connecter, sur lequel vous êtes en train d'entrer ce mot de passe.
Faire son shopping sur Internet est devenu banal pour de bonnes comme de mauvaises affaires. Et là aussi, un minimum de savoir-faire est utile.
C'est vrai que quand on parle de e-commerce, là, faut faire très attention. Beaucoup d'argent se font voler sur les e-commerce parce que les gens vont sur des faux sites Internet, sur des faux e-commerce où ils voient des belles promotions, puis ils veulent acheter des choses absolument incroyables. Et quand ils tapent le numéro de carte de crédit, la plateforme va dire « Oh, écoutez, il y a quelque chose de bizarre avec votre carte de crédit, vous n'en avez pas une autre, puis vous donnez l'autre. » Puis ils vous disent « Non, non, on n'a toujours pas réussi à faire le paiement. Vous n'en avez pas une troisième, puis vous donnez la troisième. » Puis après, ils disent « Ah ouais, peut-être ça va marcher, réessayez dans une heure. » Puis pendant ce temps, ils ont trois cartes de crédit à vous, puis ils sont en train de vous les vider. Donc, faire très attention sur ces plateformes-là. Aussi, des fois, ils acceptent le paiement, puis ils ne vous envoient rien du tout à la fin, et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, il faut vraiment aller sur des plateformes de e-commerce de bonne réputation, que vous avez pu valider, sur lesquels vous êtes sûr, sur lesquels vous avez vu des revues et tout ce genre de choses avant de mettre votre carte de crédit ou de dépenser de l'argent.
Et carte de crédit ou carte de débit, d'après Steven Meyer, pour payer en ligne, la différence n'est pas négligeable.
C'est beaucoup mieux de payer avec une carte de crédit qu'une carte de débit parce que les cartes de crédit, vous avez une garantie qui vient de la plateforme de carte de crédit où vous avez un certain nombre de jours pour faire opposition. Selon le type de carte de crédit que vous avez, vous pouvez même avoir un remboursement, même si c'est vous qui avez fait la faute. Carte de débit, l'argent est débité et vous ne l'avez plus.
Jouer en ligne, Steven, là aussi, est-ce qu'on s'expose beaucoup ou quelle hygiène respecter pour être confortable quand on joue en ligne?
Alors, la première chose quand on joue en ligne, c'est de ne pas trop jouer. Et ça, c'est le grand problème qu'on voit ça chez les jeunes adultes ou même chez les jeunes. C'est cette addiction au jeu et ces jeux sont faits pour être extrêmement addictifs et on a envie de continuer à jouer et on passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps à jouer. Après, de nouveau, chaque jeu fonctionne de façon un tout petit peu différente. Il y en a où on doit se connecter à une communauté pour jouer, alors faire attention à la communauté avec laquelle on se connecte, aussi faire attention aux informations qu'on échange avec les autres joueurs. Voir qu'est-ce que la communauté nous demande d'installer. Des fois, ils nous demandent d'installer des applications sur notre ordinateur pour être sûr qu'on n'est pas en train de tricher pendant qu'on joue. Mais est-ce qu'on a vraiment confiance en cette application qu'on nous demande d'installer sur notre ordinateur? Parce que des fois, elles sont malveillantes. Et ainsi de suite, il y a quand même pas mal de choses à faire attention.
Merci Steven Meyer de Zendata, spécialisé dans la sécurité informatique. Demain, nous verrons quelles influences nos vies numériques peuvent avoir sur l'environnement et le dérèglement climatique.